Bonjour, je m'appelle Juelle Boulay. Bienvenue à la troisième saison de Jason Éducation. Aujourd'hui, mon invité...
Je m'appelle Lucille Denis. Je suis orthopédagogue à Vancouver. Donc, j'essaie de partager ma passion au plus grand monde possible. En fait, quand je voulais être petite, moi, je voulais être enseignante à l'école. Mais dans ma tête, je pensais qu'il fallait être une première de classe, tu vois, pour être enseignante. Alors, j'ai mis ça de côté et j'ai poursuivi des études en art. Je voulais faire des décors de cinéma. C'est ce qui m'a amenée à immigrer d'abord à Montréal. Il y a 20 ans de ça, j'ai fait une école de théâtre pour apprendre les décors et les costumes. Et quand j'ai fini mes études, après ça, il fallait que je paye mes factures. Donc, j'ai travaillé dans un centre de tutorat parce que j'avais fait un peu de tutorat en France. Et j'ai adoré ça et j'ai découvert... le métier d'orthopédagogue, donc c'est une enseignante vraiment spécialisée pour les élèves qui ont des besoins particuliers. Et moi, je me suis spécialisée plus dans les troubles de lecture et d'écriture. J'ai travaillé à Montréal, puis à un moment donné, je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais allier les deux, tu sais, ma culture française et tout le bagage culturel québécois aussi que j'avais eu depuis 17 ans. Donc, j'ai décidé d'appliquer dans différentes écoles françaises et celle de Vancouver m'a acceptée. Donc, maintenant, ça fait 4 ans que je travaille dans cette école-là. Puis, j'ai aussi ma pratique privée.
Est-ce que tu travailles dans un programme d'immersion française ou dans un programme francophone ou anglophone?
Alors, c'est une école privée, donc c'est une école donc bilingue, mais c'est une école où il y a 75% du curriculum qui est en français et le reste en anglais. Et c'est un mélange du curriculum de la France et du BC, dans le fond.
OK, cool. Alors, aujourd'hui, on a pensé parler des mythes qui entourent le bilinguisme. Pourquoi, premièrement, ce sujet?
Mais dans notre école, on a quand même plus de la moitié des parents qui ne parlent pas français, mais qui ont choisi de mettre leur enfant dans un contexte scolaire francophone. Et moi-même, je suis confrontée à ça, puisque ma langue première maternelle, c'est le français. Au Québec, j'étais quand même confrontée à l'anglais, mais quand je suis arrivée ici, j'ai vraiment vu tous les obstacles qu'un bilingue peut avoir. Moi, ne serait-ce que parler au téléphone avec quelqu'un qui parle en anglais, pour moi, c'est un grand défi. J'angoisse avant déjà, donc je peux comprendre aussi des enfants qui sont en apprentissage d'une nouvelle langue et tous les défis que ça peut amener. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi.
Oui, le bilinguisme, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve qui est très cher au Canada. On a deux langues officielles, mais aussi on a beaucoup de programmes d'immersion française public aussi. Au Manitoba, en fait, ce que j'ai entendu dernièrement, c'est qu'on continue à mettre de plus en plus d'enfants dans les programmes d'immersion française et surtout des familles nouveaux arrivants également. Puis les programmes sont en train de se remplir très vite.
Oui, c'est ça. Il y a une grande demande, effectivement, même du côté de la côte pacifique pour les programmes d'immersion. Et puis aussi toutes les langues autochtones ou les langues un peu moins connues aussi. Je pense aux pays d'Afrique ou aux pays de l'Asie, etc. Donc, il y a vraiment de plus en plus d'enfants qui n'ont pas juste une seule langue, en fait.
Alors, aujourd'hui, on va parler des mythes entourant le bilinguisme. Puis, un des premiers mythes qu'on entend souvent, c'est que pour une raison ou une autre, le bilinguisme serait en train de retarder le développement du langage de l'enfant. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça?
Oui, tout à fait. Tu sais, on entend souvent dire « Ah, ben s'il a deux langues, c'est normal qu'il y ait un retard de langage, etc. » Et en fait, ce n'est pas vrai. C'est vraiment un mythe. Si on y va avec la définition du bilinguisme, d'abord, c'est qu'on utilise, qu'on parle, qu'on comprend au moins donc, deux langues pour le bilinguisme. Et donc, les conditions, les niveaux, la maîtrise, l'utilisation, les contextes peuvent varier. Après, moi, je ne suis pas une spécialiste du langage oral et surtout pour les enfants en bas âge, mais il y a des stades d'acquisition du langage, que ce soit un enfant monolingue ou bilingue, ça reste les mêmes. Donc, ils imitent les sons, ils mettent des mots ensemble. C'est juste que quand un enfant est bilingue, peut-être quand il va associer, quand il va combiner des mots ensemble, ça se peut que ce soit un mot en anglais puis un mot en français, si c'est deux langues. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte, surtout quand on pense que oh, l'enfant, il n'a pas beaucoup de vocabulaire en français, mais peut-être qu'il n'a pas beaucoup de vocabulaire en français, peut-être qu'il n'a pas beaucoup de vocabulaire en anglais, puis les deux font quand même qu'il y a une très bonne quantité de mots dans les deux langues. Fait qu'il faut quand même considérer les deux langues et pas juste une langue uniquement. Il faut y penser notamment si on fait des évaluations auprès de psychologues ou d'orthophonistes, etc., de considérer le bagage langagier, le nombre de mots, la quantité de mots dans toutes les langues parlées par l'enfant. Ça peut faire une différence.
Ça, c'est intéressant parce que je te coupe un peu là, mais quand je joue à Scrabble, contre mon chum qui est anglophone, je trouve que il a tellement un plus grand vocabulaire que moi. Mais moi, je dis toujours, mais si on différenciait pour mes besoins, je pourrais mettre comme des mots des deux langues parce que je connais la traduction pour la plupart des mots dans les deux langues, bien que peut-être je connaisse moins dans une seule langue.
Exactement, tu sais, mais je vais te donner un exemple aussi pour moi. Hier, je faisais une vidéo pour montrer à ma sœur, elle habite en France, puis je faisais une vidéo du paysage qui était à côté de chez moi, et il y avait un mot, je ne le connaissais plus en français, je le connaissais en anglais, parce que mon contexte fait que je suis beaucoup plus exposée à ce mot-là en anglais qu'en français, fait qu'il me fallait quelques secondes pour que ce vocabulaire-là revienne aussi en français, donc c'est sûr que ma quantité de vocabulaire aussi augmente par le fait même que maintenant je suis exposée beaucoup plus à l'anglais, donc... Et ce mélange aussi, tu sais, quand on parle et qu'on met deux langues ensemble, je ne connais pas la traduction en français, mais en anglais, on appelle ça du code mixing. Donc là, vous allez voir, mon accent en anglais est horrible. Mais ce mélange des deux langues, moi, ça me fascine d'avoir dans une même phrase deux mots comme ça, de deux langues différentes. Je trouve ça fascinant et à la rigueur, c'est normal puisque notre contexte, pour ma part, est bilingue, donc c'est normal. Puis, quand on observe des enfants aussi qui sont un peu plus vieux dans l'acquisition d'une nouvelle langue, si on parlait des programmes d'immersion, etc., où les parents ont fait le choix de les mettre dans des programmes comme ça, où à la maison, ce n'est pas nécessairement en français, mais ça se peut qu'au début, ils ne parlent pas, il y a une période de non-verbal, ce n'est pas qu'ils sont passifs, ce n'est pas qu'ils sont feignants, c'est juste qu'ils sont en train d'essayer de comprendre, tu vois comment ça se passe. Donc, ils sont d'abord dans cette phase de « ok, j'essaye de comprendre, de faire des liens », puis à un moment donné, ils vont plus se commettre, ils vont plus même faire ce qu'on appelle ça une phase stéréotypée, tu vois, où ils vont plus reprendre des expressions et peut-être même pas judicieusement bien employées, mais ils s'approprient au fur et à mesure, puis à un moment donné, là, ils osent plus et là, ils s'expriment plus. Fait que c'est aussi ces phases-là qu'il faut respecter de l'enfant quand il est en apprentissage, quand il est un peu plus vieux.
OK, alors c'est un enfant qui s'exprime peut-être pas, surtout dans les bas âges, c'est pas forcément qu'il n'a pas les mots, mais qu'il est juste en train de vraiment les tirer de tous ses tiroirs dans sa tête.
C'est ça. Après, il faut faire attention. S'il y a des doutes, on peut aller voir un professionnel, une orthophoniste. Mais il faut penser que s'il est dans un nouvel univers, un nouveau contexte langagier, peut-être qu'il a besoin de cette phase-là pour pouvoir comprendre. On avait, nous, une élève en première année qui ne parlait pas français, mais maintenant, rendue en troisième année, elle s'exprime en français, mais elle n'osait pas, elle observait, donc on lui donnait des mots, elle faisait au fur et à mesure, elle prenait un peu plus de risques, mais au début, elle ne voulait pas prendre cette chance-là de s'exprimer et de faire des erreurs, elle voulait plus comprendre et intérioriser, ça devient un processus plus interne pour elle.
Donc, dans mon contexte scolaire, c'est très normal de parler au moins deux langues et d'habitude, en fait, il y a beaucoup d'enfants qui parlent trois, quatre, cinq langues. Mais dans le monde anglophone, j'ai l'impression qu'il y a un stéréotype que le bilinguisme, c'est très rare, que ça existe comme rarement dans notre monde. Est-ce que tu pourrais parler de ça?
Et en fait, c'est 41% de la population mondiale qui est bilingue. On avait, je parlais avec une orthophoniste et elle me disait, c'est statistique-là, donc 41%, c'est quand même beaucoup. Surtout quand on pense à un contexte de mondialisation où les gens maintenant voyagent plus, il y a plus d'accès. Donc, des fois, c'est par la contrainte qu'ils voyagent, qu'ils s'expatrient ou qu'ils immigrent vers un autre pays. Mais ça fait que il y a du brassage multiculturel et aussi plusieurs langues qui viennent avec. Donc, ça, c'est 41% de la population qui est bilingue, elle disait 41% de la population qui est monolingue et le reste par plusieurs langues. Donc c'est vraiment important à considérer. C'est pas, alors le Canada, bien sûr, par son histoire, a déjà deux langues plus les langues autochtones, mais il y a aussi la population immigrante et d'autres pays qui, et c'est très très rare en fait, les pays où il y a juste une seule langue, c'est très très rare.
Puis, alors avec chez les élèves qui parlent comme deux langues ou plus, est-ce que ça devient de plus en plus difficile pour eux de différencier entre toutes ces langues?
Ça devient difficile si on ne leur donne pas une explication, un cadre. Dans le fond, il faut aussi penser que ces enfants-là, si c'est des migrations, un parcours migratoire, comme moi, mettons, j'ai décidé d'immigrer au Canada, c'est mon propre choix, c'est moi. Et en plus, j'ai choisi le Québec au début parce que je me suis dit, OK, ça parle français, fait que ça va être plus facile. Mais quand je suis arrivée à Vancouver, malgré tout, même si ça faisait longtemps que j'étais au pays du Canada, j'ai quand même eu un petit choc culturel par la langue, malgré tout. Donc, c'est de prendre en compte un peu ce, on appelle ça le parcours migratoire des enfants, des familles. Il existe un livre qui s'appelle Bagages, c'est un album jeunesse, dans le fond, de poésie, où c'est tout un projet qui est devenu d'ailleurs une pièce de théâtre, où les enfants, sous forme de poésie, racontent leur histoire, leur parcours migratoire. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer et ça permet aussi de faire une valorisation de leur culture, de qui ils sont. Et valoriser les langues qui sont parlées à la maison, ça permet aussi de dire à l'enfant, mais regarde, t'es au Canada, tu vas apprendre une nouvelle langue, mais tu ne pars pas de nulle part. Et ça, c'est important aussi, et de dire aux parents, ben, à la maison, vous pouvez garder parler votre langue. Ne vous forcez pas à parler le français si votre langue naturelle, c'est l'anglais, le portugais, je ne sais quelle autre langue. C'est parce que ça permet aussi de garder le lien entre l'enfant et le parent. Donc, c'est important. Après, il y a des familles qui, elles, veulent avoir une certaine structure, faut aussi respecter les familles là-dedans. Mais c'est pas de dire aux parents, ah, arrêtez de parler en anglais chez vous, arrêtez de parler espagnol à la maison. C'est aussi de leur dire, non, c'est correct de parler votre langue parce qu'il y a ce lien qui est affectif, qui est important. Il existe quand même pas mal de choses qu'on peut mettre en place pour faire ce lien entre notre langue à l'école puis la langue à la maison. Puis il existe des maisons d'édition bilingues. Français, anglais, assez quand même souvent. Il existe aussi ce qu'on appelle des sacs d'histoire plurilingues. Avec une orthophoniste de mon école, on avait pris des livres et puis on avait mis dans ce livre des petits objets qui étaient associés à l'histoire et on avait mis l'album dans les deux langues. Donc, soit on l'avait traduit ou sinon il existait aussi dans les deux langues. Puis, on a mis un petit signet avec des questions pour guider le parent, etc. Donc, ces sacs d'histoire un peu plurilingues qui peuvent enrichir. Je pense aussi au livre Miroir que j'adore, qui est génial. C'est un livre qui est arabe et français et ça s'ouvre, là vous ne voyez pas mes gestes, mais je fais mes gestes, ça s'ouvre dans le fond des deux côtés. Fait qu'il y a des rabats, puis on les ouvre des deux côtés, puis c'est comme l'effet un peu miroir. Donc ça, c'est des livres qui sont très intéressants, ou des livres aussi où on voit les différences culturelles avec les bruits des animaux, ou comment on dit bonjour. Pour les plus vieux aussi, il existe le roman. Cet été, je cherchais un roman pour une de mes élèves qui est en apprentissage de la langue, mais qui est un peu plus vieille. Et je suis tombée sur un roman que j'aime beaucoup. Il s'appelle « Honey and Ketchup ». Puis là, corrige-moi si mon accent est pas bon. Et c'est Jonathan Bécotte qui l'a écrit. Puis dans le fond, c'est justement un papa... Et en fait, c'est une nouvelle relation entre un père de famille et une mère de famille. Et les deux enfants se rencontrent et ils ne parlent pas la même langue. L'un parle anglais, l'autre parle français. Et donc, ils se rencontrent. Et donc, dans le roman, il y a des mots en anglais puis il y a des mots en français. Puis je trouvais ça très intéressant parce que ça peut aussi rassurer le plus vieux, l'enfant qui est en apprentissage de la langue, mais l'apprenant un peu plus vieux, où il peut s'appuyer sur des mots en anglais dans le roman. Donc ça, j'avais beaucoup aimé ce roman-là. Donc, c'est juste qu'après ça, il faut faire attention que ce n'est pas parce que l'enfant ne maîtrise pas une langue qu'il ne comprend pas. La compréhension, on appelle ça des habiletés de haut niveau, la compréhension, ça se transfère dans le fond. Fait que si un enfant a déjà des habiletés à faire des inférences, bon, les inférences, ça peut être, le vocabulaire peut rentrer en jeu, mais il y a des habiletés de compréhension qui se transfèrent, peu importe la langue, dans le fond. Donc ça, si c'est juste la langue qui est un obstacle, on peut l'aider pour qu'il puisse après développer et avoir un plein potentiel dans la compréhension. Donc ça, c'est à garder en tête. Est-ce qu'il y avait des choses que tu veux ajouter ou sinon je continue?
Ben, tu as juste touché sur le honey et ketchup, ça m'a fait penser à comme nos élèves qui parlent beaucoup de franglais.
Oui.
Qui est très comme, qui est mal vu. Surtout quand les élèves sont adultes, on veut vraiment pas qu'ils parlent franglais. Mais là, tu es en train de dire que c'est aussi une manière d'honorer les deux langues que la personne parle.
Oui, c'est ça. Puis, est-ce que c'est typique du Canada? Je ne sais pas là-dessus, je ne sais pas. Mais je trouve ça intéressant. Après, ça dépend aussi, tu sais, comme l'enseignant, il faut qu'il soit un modèle. S'il veut absolument que dans sa classe, ça parle français, ben, il faut que lui aussi il ne parle que français. Parce que c'est peut-être la seule personne référente de l'apprenant dans sa journée ou dans sa vie scolaire ou dans sa vie tout court. Donc, c'est à garder à ça en tête. Tu vois, hier, j'ai rencontré une personne, elle est étudiante, elle est mexicaine, elle a immigré au Québec quand elle avait 12 ans, puis maintenant elle vit à Vancouver. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, ah, est-ce que tu t'es servi de ta langue pour apprendre le français? Et elle me dit, ben, pour le vocabulaire, pour comprendre le sens des mots, je me suis appuyée sur l'espagnol. Mais le code orthographique était tellement différent de l'espagnol que ça m'a pris quand même un bon 3 ans pour qu'à un moment donné, je fasse comme « Ok, là c'est bon, j'ai compris l'orthographe ». Fait qu'elle était apprenante un peu plus vieille, tu vois. Donc, je ne serais pas étonnée que dans ses compositions écrites, quand elle écrivait des textes, elle mettait des mots en espagnol ou en tout cas, elle essayait de s'appuyer sur l'espagnol pour écrire en français. Et je pense que ça fait partie un peu du processus d'apprentissage. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la motivation derrière. Si on force des enfants à apprendre le français, ça se peut aussi qu'une petite réticence. Donc, c'est tout ça. C'est un peu… c'est pas juste dire « je te mets dans une classe en français, puis boum, apprends le français ». Si l'enfant n'est pas motivé, si c'est associé à des mauvais souvenirs ou pour X raisons, ça peut être plus difficile pour lui. Fait que lui donner un contexte un peu positif aussi à cette langue.
Alors, est-ce que si un enfant utilise beaucoup le franglais puis tu sais que l'enfant a le vocabulaire en français, que ferais-tu dans cette situation pour l'encourager à parler davantage français?
Il existe des façons, dans le fond, de corriger, c'est pas ça le terme que je cherche, mais de voir comment on peut. En fait, c'est pas lui dire hey, exprime-toi en français, c'est pas vraiment ça. On va y aller de façon un peu plus bienveillante, mais peut-être de reformuler en fait, de reformuler en utilisant le vocabulaire, et puis au fur et à mesure de voir si l'enfant prend ce mot-là ou pas. L'exposer aussi à de la littérature française, si la littérature jeunesse, tu vois, un contexte un peu plus pour des apprenants jeunes. Si, mettons, on décide de parler, je ne sais pas moi, de l'astronomie, ben de l'exposer, d'avoir une bibliothèque de livres avec, sur ce sujet-là. Et puis, s'il continue à dire le mot « sun » à la place de « soleil », ça se peut aussi que le mot « sun » soit plus facile à dire que le mot « soleil », parce que le son « ei » est peut-être un peu plus compliqué pour ça. Ou le « on » et le « en ». On le sait, chez les anglophones, « on » et « en », c'est un enfer pour eux. La distinction entre « et » et « est ». Donc, peut-être qu'il y a une facilité de prononciation aussi qu'il faut prendre en compte. Ceci dit, nous, on est le modèle, on est la personne référente du français, fait que de reformuler après en français, tout en continuant la conversation, pour qu'il soit exposé à ce mot-là. Donc, après, on peut aussi, s'il est un peu plus vieux, de voir avec l'enfant et de faire un espèce de petit entretien métacognitif comme ça. Qu'est-ce que tu en penses de ce vocabulaire-là? Est-ce qu'on peut te mettre un défi de parler un peu plus en français, etc.? Si c'est, pourquoi pas, si on voit que c'est nécessaire, quoi. Mais d'y aller avec bienveillance aussi et pas trop, trop forcé non plus.
Alors, les enfants peuvent apprendre deux langues en même temps. Ils ne doivent pas faire comme maîtriser une ensuite. Là, on est prêt à maîtriser une deuxième. Ou une troisième?
Non, c'est ça, on peut avoir... en fait, c'est surtout la situation des enfants en bas âge qui apprennent deux langues en même temps. Puis c'est correct de développer les deux langues en même temps, puisque c'est un continuum, tu vois. Si on y va de notre expérience à nous, bah, à un moment donné, on va plus utiliser l'anglais, plus le français, c'est un continuum. Et aussi, tu sais, l'été, on leur dit « Oh mon Dieu, ils vont oublier le français parce qu'ils ne vont pas parler français pendant l'été ». Mais c'est correct aussi de se dire ben, « Ok, pendant l'été, ils vont améliorer leur aptitude en anglais ». Et quand ils vont venir dans un contexte scolaire en français en septembre, hop, le continuum, il va se faire et le français va revenir, ils vont être restimulés, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose de figé. Et ça, c'est important aussi de garder ça en tête. Une des stratégies qui est dit en ce moment et qui est beaucoup à exploiter, c'est d'utiliser les congénères. Ce sont des mots qui ont la même origine, la même définition, la même phonétique. Exemple, le mot piano. Tu vois. Et ça permet de. Ça serait une des interventions efficaces de travailler sur les congénères. Dans le fond, il faut penser aussi qu'il y a l'histoire de la langue française et de la langue anglaise sont liées. À un moment donné, il y a un roi en France qui a envahi l'Angleterre, qui est le seul roi français qui a réussi à envahir l'Angleterre et qui a mis des mots français dans le lexique anglais. Donc, puis la langue française aussi, il y a un brassage avec les langues romaines, latines, grecques, etc. Donc, c'est de s'appuyer sur cet historique de langue-là pour pouvoir après nous bâtir des activités avec ça, en fait. Donc, ça peut être, mettons, on lit un texte et à un moment donné, hop, il y a un mot qui est similaire au français. Fait que c'est de s'arrêter, de l'observer, de se questionner. Ou ça peut être l'enfant qui lit qui voit un texte et qui, hop, qui voit des mots qui ressemblent soit à sa langue maternelle ou à de l'anglais qu'il connaît, ou mettons l'espagnol, l'italien. Donc, c'est de voir après qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent, et de parler, tu vois, d'engager une conversation métacognitive autour de ça. Après, ça peut être faire des jeux de pairs, tu vois, de trouver un mot et un autre mot, donc d'y aller. Il ne faut pas oublier aussi qu'on dit « Ah, le français, c'est une langue difficile à apprendre », mais dans le fond, en français, il y a 36 phonèmes, donc 36 sons, et 130 graphèmes. En anglais, c'est 44 phonèmes pour 250 graphèmes, façon d'écrire un son. Donc, c'est quand même pas si facile que ça l'anglais non plus. Donc si on dit ah ben l'enfant il va être plus facile en anglais, mais la langue anglaise au niveau de l'orthographe est plus complexe que le français. Donc des fois il y a des choix à faire en tant que enseignant, mais aussi en tant que parent sur l'apprentissage de la langue. Ben c'est sûr que je prêche pour ma paroisse parce que je suis native de la langue française. Je vais dire non, restez dans le français. Mais après, c'est différents contextes, c'est du cas par cas et il faut le considérer ça aussi, c'est sûr.
OK, donc peut-être c'est juste le fait que beaucoup de nos jeunes habitent ou comme vivent tellement en anglais qu'ils trouvent l'anglais plus facile. C'est juste parce que c'est plus présent peut-être dans leur vie.
Oui, c'est ça exactement. Ils écoutent la télé en anglais, leur interaction avec leurs amis sont en anglais. Puis bon, c'est sûr que l'oral, peut-être en anglais, il y a des structures de phrases qui sont plus simples qu'en français aussi, tu vois. Moi, j'étais étonnée quand j'ai commencé un peu à maîtriser un peu plus l'anglais, le nombre de prépositions qui va avec un verbe. Look after, look at, etc. Je trouve ça fascinant. Et le looking forward to, plus le verbe en ing, ça, moi, cette expression-là me fascine. Je ne l'ai toujours pas comprise pourquoi il y a autant de prépositions avec un ing, mais je trouve ça extraordinaire. Donc ça, cette espèce de manipulation... de manipulation de prépositions en anglais qu'en français, on a aussi, mais je trouve que c'est un peu moins. On l'utilise moins, je trouve, ma perspective à moi personnelle. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est de voir aussi le contexte social de l'apprenant. Ça, c'est sûr.
Alors, chez les enfants, disons, qui ont des difficultés scolaires, est-ce que c'est encore recommandé d'apprendre une deuxième langue?
Dans le fond, si j'y vais avec la dyslexie, c'est un trouble neurologique. En fait, les troubles dys, donc dysphasie, dyslexie, etc., c'est un trouble neurologique. C'est-à-dire qu'on est avec et toute sa vie, on va garder ce trouble-là, ce trouble d'apprentissage-là. Ça crée des obstacles. Fait que si je vais avec la dyslexie, un enfant qui est dyslexique, il va être en français, en anglais. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de phonèmes et encore plus de façons d'écrire les phonèmes en français et en anglais. Fait que ces troubles-là vont persister. Donc, ça va créer quand même des obstacles. On peut mettre en place du soutien. Si on a la chance d'avoir du soutien, il faut le mettre en place dans les langues pour pouvoir aider l'enfant. Pour les plus vieux, il existe l'ordinateur qui est vraiment un outil extraordinaire pour ça. Avec une, faut éviter de mettre l'enfant, boum, voici l'ordinateur, débrouille-toi. Il y a tout un apprentissage de l'ordinateur et des fonctions d'aide. On pense qu'ils savent utiliser l'ordinateur, mais quand on leur demande de mettre sur Google Drive, etc., c'est pas sûr qu'ils savent. Donc, c'est tout cet apprentissage-là aussi de l'utilisation efficace et intelligente des outils qui est importante à faire. Donc, il y a quand même à mettre des choses à mettre en place. Pour les plus jeunes, on peut miser sur le nom, le son des lettres, les facteurs de protection dans le fond, le sens de l'écriture. Si je pense à un enfant dont sa langue, c'est l'arabe ou le farsi ou des langues, mettons, du Moyen-Orient, que je maîtrise moins, mais le sens de lecture est différent. Les langues asiatiques, le sens de lecture, l'alphabet, ils n'ont pas d'alphabet, eux. Donc, c'est tout avoir ça en tête que, OK, il y a un apprentissage à faire. Puis même quand on fait de la compréhension orale, il faut aussi considérer que peut-être que l'enfant ne connaît pas qu'à un moment donné, je me souviens, on avait un texte et il y avait une inférence à faire, puis ça parlait comme quoi le texte, le parc, c'est un enfant qui faisait du vélo dans un parc et le parc fermait à 23 heures. Au Québec, je pense que c'est 23 heures. Il fallait faire une inférence, mais il fallait savoir que les parcs fermaient à 23 heures. Mais ce n'est pas tous les enfants qui savent que le parc ferme à 23 heures. Donc, c'est des petites choses comme ça. Aller chercher d'abord, vérifier les connaissances culturelles antérieures des enfants pour être sûr qu'ils comprennent ces petits détails-là. Par rapport au sirop d'érable, la tire, dans l'Ouest, ça ne se fait pas beaucoup. On n'a pas vraiment de neige. Fait que, si tu es Québécois, si tu as vécu au Québec, tu as vécu les cabanes à sucre, etc., tu connais. Mais moi, si je parle à mes élèves de la tire d'érable, ils ne savent pas du tout c'est quoi. Donc, c'est d'aller chercher ces connaissances, valider en fait ces connaissances auprès des enfants. Bon, là, j'ai un peu parti un peu ailleurs par rapport à la dyslexie, mais c'est important. Voilà.
Alors, pour ces enfants-là, on se dit comme ils vont avoir des troubles, peu importe la langue qu'ils parlent. Donc, est-ce qu'on continue avec les deux langues ou plusieurs langues ou est-ce qu'on se concentre sur une seule?
J'aimerais ça avoir une réponse unique et dire oui, garder en immersion française ou dans le programme français. Oui, on peut les laisser dans le programme. Par contre, il faut être sûr aussi qu'il y a un soutien pour ces enfants-là. S'ils sont livrés à eux-mêmes, ce n'est pas juste. Mais si c'est la même situation que dans la langue anglaise, mettons, on les scolarise que dans la langue anglaise, puis ils n'ont pas plus de soutien. Je veux dire, en fait, le message pour ces enfants-là, c'est de mettre en place des mesures d'adaptation, penser à la conception universelle des apprentissages, donc vraiment d'aller les soutenir pour qu'ils puissent exploiter leur plein potentiel, que ce soit qu'en anglais ou dans les deux langues. Mais il y a aussi, tu sais, tu parlais de n'importe quelle langue, mais en italien ou en espagnol, puis d'autres langues aussi, mais l'espagnol est assez courant au Canada, c'est un son égale une façon d'écrire. Fait que du coup, les enfants qui sont dyslexiques, ben, ça se perçoit moins. Donc ça, c'est plus facile pour eux parce que la dyslexie, c'est un trouble phonologique. Donc c'est vraiment les sons. Ce n'est pas qu'il inverse le B et le D, c'est vraiment phonologique. Donc en espagnol, ça va paraître moins un son égale une façon d'écrire. Mais en anglais, en français, ça va être beaucoup plus difficile.
Ah, oh, ça c'est tellement intéressant. Alors ils auront peut-être plus de succès dans une autre langue.
C'est ça, exactement, sur des groupes Facebook de parents français, parce que quand on arrive au secondaire en France, on doit prendre deux langues étrangères. Donc d'abord, on apprend l'anglais, puis après ça, on peut apprendre, moi j'avais appris l'espagnol. Puis il y a des parents d'enfants dyslexiques qui disent « Ah, oh, est-ce que c'est bon que mon enfant apprenne l'espagnol ? Il y a des difficultés en anglais. » Puis on sait que maintenant que la langue anglaise, le code orthographique anglais est difficile. Mais dans le fond, ça se peut qu'en espagnol, ils s'épanouissent parce qu'un son égale une façon d'écrire. Donc, c'est plus facile pour lui. Puis il peut faire des liens avec sa langue française sur le langage oral. Parce que y a des, chez les élèves dyslexiques, il peut y avoir un gros écart entre le langage oral et le langage écrit. À l'oral, ils peuvent avoir un vocabulaire super riche, leur structure de phrase très complexe. Puis à l'écrit, c'est tellement difficile pour eux qu'ils simplifient tout. Là, c'est frustrant pour nous parce qu'on voit tout le potentiel oral qu'ils ont et ça ne se retranscrit pas à l'écrit. Donc, ça se peut qu'en espagnol, ils peuvent plus s'épanouir, on ne sait pas.
Alors, pourrais-tu parler plus spécifiquement de quelques de ressources ou de stratégies qui aident ces enfants-là?
Pour les parents, moi, j'aime beaucoup leur indiquer les audiobooks parce qu'il y a toujours des lectures. Chez nous, l'enseignant, on dit il faut que votre enfant lise, etc. Puis ça peut être à la fin de la journée, un enfant qui a bien travaillé, qui a un trouble d'apprentissage. Ça se peut que la lecture, ça devienne un cauchemar et un combat pour les parents. Et on veut garder le lien, on veut que ce soit préservé ce lien-là. Donc moi, j'encourage les audiobooks sur les plateformes comme Télé-Québec, Radio-Canada. Il y en a quand même pas mal. Et il y a sur la plateforme de Télé-Québec, c'est des trousses pédagogiques. Il y a aussi une autre source de l'Ontario que j'ai oubliée. Où il y a des livres comme ça par niveau de lecture et ça lit pour nous et il y a comme une espèce de petite de couleur tu sais, qui suit le mot. Je ne sais plus comment on appelle ça en français, même en anglais j'ai oublié, je ne sais pas non plus. Donc ça peut être intéressant pour les enfants.
C'est comme Bookily par exemple.
Exact.
Ok.
C'est exactement ça dont je pensais. Par contre, je tiens à faire une aparté sur les livres nivelés. Si l'enfant est en apprentissage du code orthographique, on va lui plus lui donner des livres décodables. Décodables, ça veut dire que les livres sont vraiment créés en fonction d'une progression d'orthographe. Exemple, s'il y a un livre qui cible le « en », le graphème « en », dans les livres d'avant, il n'y a aucun mot avec le « en ». Tandis que dans les livres nivelés, c'est plus le vocabulaire et la complexité des phrases. Mais tous les graphèmes sont mélangés. Donc, quand on est en apprentissage de la langue, on va plus miser sur des livres décodables. Et quand on voit que notre lecteur est un petit peu plus fluide, on va y aller avec des livres nivelés. Et Bookily en fait partie. Et moi, j'aime beaucoup Bookily. Et puis, il y a des petits jeux après là, de compréhension. Je trouve ça juste dommage qu'on n'ait pas accès au retour du livre quand on fait des petits jeux de compréhension des fois pour développer ces stratégies-là de retour au livre. Mais ça, c'est mon côté pédagogue qui ressort. Mais les enfants, ils font des petits jeux, ils progressent, ils voient des pays. J'aime beaucoup Bookily, ouais. Il y a aussi après... Vas-y, dis-moi.
Non, vas-y.
Non, après, il y a à un moment donné qu'une orthophoniste, elle m'avait impressionnée, elle avait pris le livre La course ou la marche de l'ours. Tu sais, c'est une famille qui va voir un ours dans une grotte. C'est très connu comme livre.
Oui, je le connais en anglais, en going and on a bear hunt, mais ça existe en français aussi.
Oui, voilà, c'est ça. Puis il y a même un livre pop-up de ce livre-là. Et elle avait découpé une feutrine pour faire le parcours. Elle avait mis des Lego, tu vois. Fait que ça peut être aussi des objets accompagnateurs de livres. J'ai même vu une prof du secondaire qui, elle, avait découpé des images d'un roman et elle les rendait accessibles aux élèves qui avaient un peu plus de difficultés pour faire le résumé du livre. Donc, je trouve ça super intéressant pour aider ces élèves-là, justement, à avoir accès au vocabulaire. Ça peut être, moi aussi, ce que je fais, c'est que quand je présente un album jeunesse, je leur présente toujours la première de couverture, où est le titre, et puis le titre avec l'image, le lien titre-image, ce n'est pas si évident pour des enfants. Et je leur demande, d'après vous, quels mots on peut retrouver dans ce texte-là. Fait que là, on fait émerger des mots, puis des fois, les mots sont assez larges. Ça peut être bateau. Alors, je dis, ouais, ça peut être plus qu'un bateau, on voit une barque ou un canot. Fait que ça peut être de préciser, de rendre plus spécifique plutôt qu'il soit générique, ce vocabulaire-là. Si là, si, mettons, le mot existe en anglais, qu'il est similaire, on peut faire travailler les congénères aussi. Donc, de rendre un peu plus actif. Puis, je trouve que d'aller faire émerger un peu le potentiel vocabulaire qu'on pourrait retrouver, ça fait travailler la prédiction. Mais ça fait aussi penser à nos élèves qui, des fois, ils partent sur une histoire qui n'a pas du tout de lien avec la vraie histoire. Donc, ça nous permet un peu de valider leur pré-compréhension. Et je ne suis pas sûre que ça va parler des Martiens. On va voir, ça va être notre intention de lecture. On va voir si ça parle des Martiens et en fait, pas du tout. À un moment donné, j'avais montrer un livre à une classe de quatrième année qui s'appelait Inondé. Et dans le fond, c'est un peu une histoire avec une connotation écologique et de collaboration. C'est un très bel album. Et les enfants n'avaient pas du tout compris que c'était de l'eau. En fait, sur la première de couverture, il y a des animaux avec de l'eau qui monte, puis c'est bleu. Et les enfants n'avaient pas du tout compris. Il fait le lien entre le titre et l'image. Ils étaient partis sur autre chose. Ils étaient partis sur un zoo avec des animaux, etc. Puis au fil de l'histoire, ils ont comme changé leur compréhension. Ils ont réalisé qu'il y avait un bris de compréhension, puis ils ont ajusté leur compréhension. Donc, c'est important aussi d'un peu valider déjà c'est quoi leur préconnaissance qu'ils se font de l'histoire et puis de leur dire, ben là, il faut que tu t'ajustes, ça ne marche pas. Fait que, y a ça. Après, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les albums sans texte. Je suis un peu une fan des albums sans texte. Je vois que tu hoches la tête, fait que j'imagine que toi aussi.
Oui.
j'aime beaucoup l'album. Alors ça y est. Alors je l'ai en anglais, mais j'ose pas le dire parce que je sais que ma prononciation sera pas bonne. Et corrige-moi. Attends, je vais l'épeler. C-H-A-L-K.
Chalk.
Ouais, c'est ça. Dessine en français. Puis moi ici en Colombie-Britannique, j'ai pas trop accès à des livres en français. C'est très difficile, il faut que je les commande, puis ça prend du temps. Fait que j'achète des albums sans texte avec le titre en anglais, et comme ça, après, je peux exploiter l'album. Donc, il y a aussi l'album qui s'appelle Float, F-L-O-A-T, où dans les pages de garde, tu as comment faire un origami d'un avion et d'un bateau. Fait que ça peut être une super belle après activité de prolongement de l'album. Tu as des albums vraiment magnifiques jeunesse. Puis là, tu peux faire leur créer une histoire, tu peux travailler le vocabulaire, tu peux travailler aussi tout ce qui est, on appelle ça les attraits de l'auteur ou de l'autrice. Donc, c'est le cadre, les personnages, etc. Puis ça peut être fait à l'oral et après passer à l'écrit. Ça peut être discussion entre deux, puis après vous pouvez parler, enfin vous pouvez l'écrire, une phrase, une émotion, etc. Donc ça peut être très intéressant. Les albums jeunesse, c'est une super belle exploitation. À mon école, il y a une enseignante aussi qui travaille avec les plus jeunes, puis elle a fait des coins de scénario. Fait que c'est des espaces de jeu sur des... alors, ça peut être chez le docteur, chez l'ophtalmo, à l'épicerie, etc. Fait que c'est un espace vraiment consacré à des corps de métier. Ça peut être la cuisine aussi, où on va susciter le langage spécifique. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant aussi. Après, tu as les albums aussi jeunesse à structure répétitive, où Robert Munsch, c'est un roi là-dedans. Donc ça existe en anglais, en français, en plusieurs langues, fait que c'est parfait. Et vu que ça se répète, ben, les enfants, ils ont un modèle comme ça qu'ils entendent. Et enfin, moi j'aime beaucoup les albums jeunesse, alors ça.
Moi aussi, ma classe est remplie d'albums.
Ah, tu sais, j'aimerais ça qu'ils nous donnent un budget par an pour acheter des albums jeunesse, que ce soit fait par le gouvernement, tu vois.
Oui, ça serait très cool. Comme ça, c'est honnêtement, c'est vraiment les livres que j'aime le plus acheter.
Oui, oui. Et à un moment donné, tu sais, je travaillais avec dans une classe de maternelle, puis je leur avais lu un livre, deux livres. Ah, il y a un livre, j'ai encore perdu le nom. C'est de... Salomon, c'est son nom de famille. Xavier Salomon. Et c'est l'histoire d'un... c'est Poil que ça s'appelle. Et c'est l'histoire d'un monsieur qui a de plus en plus de poils sur son visage. Et à la fin, l'enfant peut mettre son visage dans le trou d'une page, puis il voit son visage avec une moustache et des poils tout au long, et une barbe, etc. Fait que là, les enfants, ils adoraient ça, puis tu sais, ils retraçaient. Je les entendais après, ils se mettaient par deux, ils faisaient une lecture partagée juste entre deux, une lecture à deux dans le fond. Et ils étaient à deux, puis ils refaisaient l'histoire, puis après ça, ils s'amusaient à mettre le livre sur leur visage, et ça, les enfants, ils adorent vraiment ça, ce genre de livre-là, un peu interactif. D'ailleurs, lui-même, il a fait aussi un album qui s'appelle Off, ça c'est pour les plus vieux, un peu écologique aussi, super beau. Je suis en train d'aller se voir un peu, c'est quoi son autre livre. Il a fait aussi Le Festin des Affreux, qui est génial, qui est traduit dans plusieurs langues. Le livre avec les moustaches, la barbe, s'appelle Atchoum.
Atchoum, ok.
Ouais. Puis il a fait un livre aussi qui s'appelle Sous les vagues, et c'est sur l'inclusion, c'est sur les personnes, un enfant qui est handicapé. Bon, là, je vous révèle un peu la fin de l'histoire, mais voilà.
Bon, alors, je vais faire référence à tous ces livres-là, oui, et aux ressources dans les notes pour l'épisode. Comme ça, les personnes, s'ils sont en train d'écouter pendant qu'ils conduisent, n'ont pas besoin d'arrêter la voiture.
Les pauvres.
OK. Alors, OK. On a beaucoup parlé de comment... Alors, les difficultés scolaires ne veulent pas dire en soi qu'un enfant ne peut pas apprendre une langue additionnelle. Puis parfois même, une langue additionnelle pourrait même être plus facile pour eux en comparaison avec la langue qu'ils parlent en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres mythes par rapport au bilinguisme qui sont assez communs?
Après, ça peut être qu'un adulte ne peut pas apprendre être bilingue. Ça, c'est pas vrai. Tu sais, on dit, les enfants, ils apprennent plus vite les langues que nous. Mais en fait, ils sont juste immergés, ils sont en immersion, et c'est le contexte et l'utilisation qui fait qu'ils apprennent plus vite que nous. Mais,
vraiment, donc c'est pas vrai.
Ben, c'est pas vrai. Après, après, ça dépend de la personne. Si la personne a des problèmes de mémoire, tu sais, adulte, etc., c'est sûr que ça prend de la mémoire quand même pour apprendre une langue. Mais reste qu'un adulte peut quand même apprendre une autre langue. J'en suis la preuve vivante. J'apprends l'anglais, j'essaie d'apprendre l'espagnol, tu vois. Enfin, c'est un continuum, vraiment. C'est un continuum, ouais.
Cool. Et une autre chose, et ça, c'est quelque chose que moi, je trouve très difficile. Moi, je parle le français et l'anglais quasiment tous les jours. Et surtout quand je suis fatiguée, disons que j'étais à l'école, j'ai parlé en français toute la journée, puis je rentre chez moi. Et mon chum qui parle vraiment que l'anglais, je ne peux pas trouver mes mots en anglais parce que mon cerveau a travaillé tellement en français la journée longue que là, quand je rentre chez moi, je perds et je manque des mots. Est-ce que ça, c'est comme assez commun chez les gens qui parlent plus qu'une langue? Ou est-ce que c'est juste moi?
Ben, en tout cas, t'es pas la seule parce que moi aussi. Moi, je passe ma journée en français aussi. Puis à un moment donné, quand je dois faire une activité sociale en anglais, ça me prend un bon 30 minutes. Ou après ça, je me sens un peu plus à l'aise à parler en anglais. Mais au début, c'est difficile pour moi. Et là, j'ai l'impression que les gens veulent plus me parler parce qu'ils voient que je galère à parler en anglais. Puis en plus, moi, il y a l'accent. Fait que là, il faut qu'ils comprennent mon accent. Faut que je comprenne leur accent. Il y a une fatigue cognitive quand même. Tu vois, faut pas. Nos métiers sont quand même exigeants. Il y a une fatigue cognitive. Fait que ça, c'est à prendre en compte. C'est quand même exigeant cognitivement de parler des langues et de switcher comme ça en bon français, de l'anglais, de français, d'espagnol, d'italien, c'est demandant. Donc, je pense que c'est au-delà de la langue aussi, c'est aussi notre vie, notre rythme de vie. Il y a le stress aussi, tu sais, il y a plein de facteurs à prendre en compte.
Donc, je suis normale.
Oui, en tout cas, on est deux normales.
OK, parfait. Une autre chose, c'est que si jamais j'ai des enfants, je veux absolument leur parler français et mon chum parle l'anglais. Et j'ai déjà entendu des commentaires chez mes amis qui ont dit, bien, est-ce que les enfants vont être comme confondus d'apprendre deux langues en même temps? Est-ce qu'ils vont penser que ce mot est en français, même si c'est vraiment un mot en anglais? Est-ce qu'ils vont pouvoir parler à leurs grands-parents qui parlent que l'anglais? Alors, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là?
J'ai écouté un podcast justement sur le bilinguisme et parler plusieurs langues, etc. Et ce que l'orthophoniste disait, c'est que l'enfant, il arrive à distinguer, de faire comme « Ok, papa, lui, il parle anglais » ou il ne va pas dire « il parle anglais », mais il comprend qu'il parle une langue, « maman parle une autre langue, ok, c'est correct avec moi ». Tu vas être capable, parce que quand un enfant, il comprend tous les sons, donc… Il va être capable de distinguer, OK, cette personne-là, elle parle en français, cette personne-là parle en anglais, puis il va être capable de faire cette distinction. Néanmoins, si toi, par contre, tu décides, OK, aujourd'hui, le lundi, je parle que en français, mais le mardi, je décide de faire français et anglais, et après ça, tu chantes, il y a une espèce d'incohérence, là, ça va être plus difficile pour l'enfant. Faut vraiment avoir un cadre clair. OK, ben, les deux parents, on parle dans les deux langues, et c'est correct. Maintenant, moi, je parle le français, toi, tu parles l'anglais. OK, c'est correct. Certaines cohérences pour que l'enfant puisse avoir des repères et développer ces deux langues, dans le fond, dans un environnement équilibré au niveau des langues, quoi.
Donc, ça va les aider à distinguer les deux langues parce que c'est un parent qui parle ça, l'autre parent qui parle l'autre.
Oui. Mais toi, tu peux décider aussi de dire, ben non, moi, je décide de parler dans les deux langues. Ça peut être ça aussi, tu vois. Il ne faut pas non plus que tu te contraignes de ne pas parler l'anglais parce que tu veux que ton enfant développe le français. Parce que le plus important là-dedans, de ce que j'ai compris quand elle expliquait ça dans le podcast du balado, c'était le lien, en fait. Tu veux que tu aies un lien avec ton enfant. Donc, c'est ça le plus important. Tu sais, comme on dit, mettons des personnes immigrantes, « Ah, oh, parlez à votre enfant en français. » Mais si la personne, si le parent ne maîtrise pas le français, comment il va pouvoir exprimer ses émotions? Comment il va pouvoir raconter sa journée à l'enfant s'il lui-même ne maîtrise pas la langue de français? Mais s'il fait en espagnol et qu'il va ressentir toute la chaleur, toute l'émotion, tout le bagage, tout ce qui va avec, qui est insidu à la langue, je pense que c'est mieux qu'il lui parle en espagnol, tu vois. Donc, et ça fait partie aussi de leur histoire de cette langue-là. Donc, c'est important de valoriser la langue maternelle ou paternelle, tu vois, de la maison.
Ça, c'est un très bon point parce que je pense souvent à l'école, on se frustre parce que c'est comme nos élèves parlent en français à l'école mais, et là, ils vont à la maison puis ils parlent anglais. Et même s'il y a des parents qui sont capables de parler français, ils vont choisir de parler anglais avec leurs enfants. Puis parfois, on trouve ça, c'est comme, oh, on fait tellement de travail d'essayer de leur enseigner cette langue. Puis là, à la maison, c'est comme, ben, vous ne faites plus l'effort, mais c'est un très bon point de voir, ben, le parent est à l'aise dans cette langue. Puis, leur besoin, ben, le besoin ultime de l'enfant, c'est de se, comme, d'être aimé.
Ouais. Puis, moi, je me dis quand même que l'enfant a passé 6 heures à entendre du français par jour pendant 5 jours pendant une semaine. Enfin, sur 7 jours, il a entendu 30 heures dans le fond, mettons, si je vais 5 fois 5, 25 heures de français par semaine, c'est quand même pas mal, tu vois. Il y a une orthophoniste qui disait, je pense, si mes souvenirs sont bons, il faut que l'enfant soit exposé à 30% de la langue par jour, de 30% de son temps de la langue par jour pour acquérir la langue. Mais je pense que je pense que déjà, s'il passe toute la journée d'âge scolaire, sa vie scolaire en français, c'est déjà une bonne. Avec tout ce qui. Tu sais, l'école, c'est fait pour apprendre, donc on l'expose à une stimulation du langage assez bonne. Je pense que c'est quand même honorable. Et. Tu vois, je pense à mes élèves actuels où, à la maison, ça ne parle que anglais. Mais avec moi, ils savent que s'ils me parlent en anglais, je ne vais peut-être pas les comprendre. Puis moi, si je leur parle en anglais, ils ne vont pas me comprendre, ça, c'est sûr. Donc avec moi, c'est en français, tu vois, puis ils passent en français, puis des fois, il y a des mots en anglais qui sont dans leur langue, mais ils sont capables de s'exprimer en français. Puis aux parents, ben, je leur parle en anglais, même que des fois, ben, j'utilise le traducteur parce que le parent ne maîtrise pas l'anglais, il parle plus espagnol, ben, j'utilise le traducteur. Alors, l'espagnol, je le connais, fait que je m'assure qu'il n'y a pas trop de bêtises, mais ou farsi, je demande à quelqu'un, regarde, est-ce que farsi est correct, tu sais, je le fais valider avant. Mais ça permet aussi, moi, d'avoir un lien avec les parents pour être sûr que le message est clair et aussi pour un peu valoriser la langue à la maison, quoi. Dire comme, oui, bah, c'est une école où on parle français, anglais, vous avez aussi votre autre langue et j'ai d'avoir une communication, un pont avec vous, quoi, un lien avec vous.
Bien cool, ça c'était vraiment fort intéressant. Ce sont des mythes que j'ai entendus quand j'étais plus jeune parce que moi, j'ai fréquenté des écoles d'immersion française. Et là, j'entends ça avec mes amis qui maintenant commencent à avoir des enfants. Puis je leur demande, oh, est-ce que tu vas inscrire ton enfant en immersion française? Et c'est comme, oh, ben, tu sais, maintenant je vais pouvoir leur dire, hey, c'est vraiment un cadeau et ton enfant sera capable, même si vous parlez anglais à la maison, comme ça va aller.
Oui. Et prendre en compte que c'est un continuum d'apprentissage et aussi prendre en compte la motivation de l'enfant. Est-ce que lui aussi, il veut apprendre le français? Parce que s'il va à reculons, c'est sûr que l'apprentissage du français ne va pas se faire. S'il ne voit pas l'intérêt d'apprendre le français, je comprends.
Oui, et on voit déjà ça.
Ouais.
Bien, merci Lucille tellement d'être venue aujourd'hui. Et je pense qu'on va, on a trop à dire et je veux tellement entendre tout ce que tu as à dire sur tous les livres. Alors, il va falloir que je te réinvite. Merci tellement d'être venu aujourd'hui, puis à la prochaine.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Jason Éducation est un balado créé et réalisé par moi-même, Juelle Boulay, en collaboration avec WebWest Balado. Pour ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous à Jason Éducation sur votre appli de balado préférée ou visitez webwest.ca. Je vous invite également à évaluer le balado sur iTunes.